De retour sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Je rejoins maintenant notre spécialiste du secteur économique et des finances, c'est Prime Niavoya qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Prime.
Bonjour Guillaume.
Tu vas bien ?
Ça va très bien, merci.
Prime, aujourd'hui on se penche ensemble sur les effets de la crise actuelle, la crise de la Covid-19, sur le secteur des arts, un secteur au sens large. On va parler évidemment du secteur touristique également et puis des musées, mais on parlera aussi du marché de l'art qui, curieusement, ne semble pas, lui, connaître la crise. Mais tout d'abord, on va commencer par peut-être un petit état des lieux. Ça fait maintenant un an que nous vivons cette pandémie et au niveau international, comme au niveau canadien, évidemment, la crise a des effets ravageurs sur le secteur artistique, en particulier du fait que la fréquentation des musées et le tourisme a chuté de manière très significative, n'est-ce pas?
Absolument. Bon, on estime que l'emploi du secteur de la culture au Canada se situe entre 700 et 800 000 emplois par an. Cela comprend évidemment les musiciens, les écrivains, les danseurs, tout ce qui constitue, disons, l'écosystème de la culture. Mmh. Et si tu veux, je vais te donner quelques statistiques assez parlantes de la position de la culture dans l'économie canadienne.
Oui, avec plaisir, parce que on pourrait penser que, évidemment, c'est un secteur relativement petit, anecdotique, et pourtant, je crois qu'il représente une part très importante de l'économie canadienne.
Absolument. La culture au Canada représente environ 3,1% du PIB, du produit intérieur brut.
Eh oui.
Ce qui représentait pratiquement 50 milliards en 2010, avec presque 4% de l'emploi total, ce qui représente quand même un chiffre assez significatif. Et d'autre part, la culture, sur le plan économique, tient en quatrième position dans le PIB, après les industries minières, le gaz et le pétrole au Canada, évidemment, et la construction, le transport et l'entreposage.
Eh oui, c'est donc tout à fait important. D'ailleurs, je pense que le secteur au sens large de la culture, il doit être rapproché aussi du secteur du tourisme au sens large, n'est-ce pas?
Absolument. D'ailleurs, c'est lié parce que l'ensemble du tourisme est fortement corrélé aux visites dans les musées.
Eh oui.
Et bon, tu m'as envoyé l'article sur le Vancouver. Vancouver Art Gallery a perdu pratiquement 75% des visiteurs à cause de la pandémie. Ceci vaut autant pour les musées de Toronto, de Montréal et d'ailleurs.
Bien sûr, et de ce fait, évidemment, les revenus de ces institutions ont fondu comme neige au soleil, et sans le soutien des institutions nationales, eh bien, évidemment, tout cela s'effondrerait. Alors, je crois d'ailleurs qu'ici, en Ontario, le gouvernement a injecté déjà des fonds. Il y a 25 millions de dollars qui ont été injectés pour aider les artistes et les organismes artistiques à traverser la période.
Oui, effectivement, le gouvernement de l'Ontario a débloqué un financement de 25 millions de dollars à 140 organismes artistiques. Il s'agit évidemment du soutien aux emplois, aux musiciens, écrivains, etc. Mais d'autre part aussi, le gouvernement canadien a créé un fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Et ça, c'est important. Donc, il y a des aides à plusieurs échelons, à l'échelon provincial, mais aussi à l'échelon fédéral.
Et voilà, donc un plan global de soutien pour ce secteur fragilisé, bien évidemment, et qui ne pourra reprendre du service que lorsque l'économie rouvrira et que les mesures de santé publique le permettront, bien sûr. Alors, dans le même temps, je disais, Prime, ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque l'on observe ce qui se passe sur le marché de l'art, et là, on parle à la fois au Canada et de manière internationale, parce que c'est un marché quand même très international, on se rend compte que eh bien, la crise n'a pas véritablement touché ce secteur, ou même que celui-ci affiche quasiment une bonne santé insolente.
Absolument. D'ailleurs, l'article du Devoir le montre très bien avec son titre, le marché de l'art est en bonne santé, est en très très bonne santé, malgré une chute des ventes des géants du secteur. Les deux géants du secteur, c'est Christie's et Sotheby's.
Voilà, les vénérables maisons anglaises et Christie's et Sotheby's, mais évidemment, ici aussi, on a plusieurs grandes maisons de vente aux enchères, et on observe bien des, comme je le disais, des records réguliers depuis maintenant plusieurs mois, et les ventes se sont transformées, elles se font de manière virtuelle, mais il semble que cela ne pénalise pas véritablement les grands acteurs du secteur.
Ah, pas du tout, pas du tout, bien au contraire. Bon, pour te donner un exemple, il s'agit de la toile de Sandro Botticelli, le fameux, la peinture, le jeune homme tenant un médaillon, qui s'est vendu à pratiquement 100 millions de dollars.
Voilà, c'était au début de l'année 2021. C'est un record pour un portrait, je crois. Sandro Botticelli, évidemment, c'est un des maîtres de la Renaissance italienne, mais malgré tout, la toile s'était vendue il y a quelques années pour une somme bien moins importante.
Bah oui, la toile s'était vendue en 1982 à 1 200 000 dollars, à peu près, 810 000 pounds britanniques.
Ouais.
Donc, il y a une plus-value extraordinaire.
Multiplier quasiment le prix par 100. Alors, est-ce que ça veut dire que la pandémie n'a aucune incidence sur le marché de l'art?
Absolument, parce que l'art, à ce niveau, est complètement contrôlé par les ultra-riches. Parce que l'art est à la fois un bien de luxe et un investissement.
En effet. Et les ultra-riches, je crois qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette chronique, mais ils ont plutôt même bénéficié finalement de la crise actuelle.
Absolument. Les collectionneurs qui investissent de manière avisée, comme on vient de le voir, voient leurs œuvres s'accroître dans le temps. Alors, en plus, les œuvres bénéficient d'exemptions fiscales pour les acquéreurs et les musées qui en sont bénéficiaires. Donc, c'est vraiment un moyen de pouvoir échapper à l'impôt pour les ultra-riches et en même temps de faire de l'argent, puisqu'il s'agit de l'accumulation d'un actif qui prend beaucoup de valeur dans le temps.
Voilà,
en tout cas, pour les grands artistes.
Et pour donner un ordre d'idée chiffré, les 10 plus grandes fortunes du monde ont gagné environ 700 milliards de dollars en 2020 en pleine pandémie. Ça veut dire qu'en effet, encore une fois, les riches se sont enrichis pendant cette crise.
Donc 20 milliards de dollars pour Bezos en une seule journée.
Oui, c'est assez fou. Évidemment, il y a quand même moins d'activité dans le secteur des arts en ce moment. Il y a moins de foires, il y a moins de ventes aux enchères. Mais donc, on peut l'observer, cela ne semble pas véritablement toucher outre mesure le secteur. Est-ce que, Prime, pour terminer, tu as un commentaire ou une observation sur cette espèce de surprenante dichotomie entre les arts vivants, les arts, les musées, les choses comme ça, les maisons de vente aux enchères qui, elles, engrangent des fortunes?
Je crois qu'il faut distinguer les deux, d'ailleurs, parce qu'il y a la culture dans le sens général, comme on l'a dit tout à l'heure, qui contribue d'une manière significative à l'économie nationale. Donc, je rappelle d'ailleurs que la culture en tant que secteur économique, sa valeur ajoutée est supérieure à celle de l'agriculture au Canada, à l'hébergement et à l'alimentation et aux services publics. C'est significatif.
Et c'est
donc, c'est un secteur qu'il faut soutenir parce que il s'agit aussi de soutenir une partie de l'économie nationale. Mais d'un autre côté, il y a évidemment le monde de l'art qui est contrôlé par les deux grands géants du secteur, Christie's and Sotheby's. Cela, bon, concerne le marché dominé et manipulé, à mon avis, par les ultra-riches.
Et là, est-ce qu'il faudrait, d'après toi, songer à une régulation pour essayer de taxer ou en tout cas que ce secteur du marché de l'art contribue à l'économie d'une certaine manière?
Ça, je laisse ça aux économistes et surtout aux fiscalistes. Parce que le marché de l'art, à ce niveau, est manipulé et dominé par les ultra-riches. Quand on sait que, par exemple, le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci s'est vendu à 450 millions de dollars, on a de la peine à y croire.
Chiffres qui n'ont plus véritablement de lien avec une quelconque réalité.
Absolument. Donc, ça, c'est complètement détaché de l'économie.
Et voilà des artistes vivants qui, pour la plupart d'entre eux, souffrent de la pandémie alors que le marché de l'art pulvérise toujours des records. C'est le paradoxe de 2021. Merci Prime Niamoya sur les ondes de Choc FM 105.1.